On est proche du sujet du départ, puisque on est parti de la radiophonie et que.
Il y en a bien des bruits de surface.
Oui. Mais juste deux petits mots encore sur la radiophonie. Puisque en travaillant en concert, finalement, les systèmes de diffusion se sont développés là, avec du multipiste, etc. Et puisqu'on est, on est en ligne sur Internet, il faut se brancher sur le site de Roland KN, hein, qui lui a développé la théâtrophonie à partir de la radiophonie. C'est-à-dire considérant peut-être qu'un poste de radio ne permettait pas d'avoir un espace très très grand, etc. C'est de faire de la radio dans une salle de théâtre, pratiquement. Hein. Et donc de travailler beaucoup, de cultiver la qualité du son, de travailler avec plusieurs espaces et de développer un art dramatique propre à une grande salle avec une sonorisation et pas avec un poste de radio. D'où le terme de théâtrophonie. Pour ces moyens de diffusion, mais aussi pour quelque chose qui est très issu de ce que, à peu près de ce que je viens de faire, c'est-à-dire de la dramatique ou de l'histoire, hein, mais qui n'est pas de la musique abstraite, hein, et qui est fondée sur, éventuellement sur un côté narratif ou des choses de ce type-là. Voilà.
En entendant ça, ça m'a juste rappelé le fait que c'était une diffusion presque documentaire, juste sur deux haut-parleurs et non pas interprétée.
Oui.
C'est peut-être une pièce qui demande à être interprétée.
Comme toutes les pièces de musique électroacoustique, précisément, on travaille la qualité du son, les rapports d'espace, etc. Il y a une notion d'interprétation qui se fait en concert où on joue avec parfois 50-60 haut-parleurs. Et c'est sûr qu'on a intégré dans la conception même d'une pièce le fait qu'on va la jouer dans un grand espace. Ça fait partie de la composition même au départ. Hein. Mais là, ça fait un sujet long, un peu long, c'est-à-dire des systèmes de diffusion et du rapport avec le public et de la communication.
Du statut de l'œuvre même, parce que c'est par un mode de communication, et c'est aussi un peu ce qui se passe là, par un mode de communication, au moment où tu es obligé de soustraire quelque chose, de laisser passer une partie de l'information, en espérant qu'ensuite, il y ait la possibilité que l'information arrive en plein, quoi ou soit, ouais. Que l'œuvre arrive dans son œuvre complète.
Il y a ça et le fait que, encore une fois, moi quand je parle de dimension physique du son, c'est-à-dire que lorsqu'on met des sons ensemble dans un espace, du grave, de l'aigu, des sons loin et des sons près, je veux parler de la compression MP3, etc. aujourd'hui, puisqu'on est en ligne, c'est-à-dire tous les rapports sont changés, le son ne change pas du tout, et surtout on n'a pas le même rapport sensuel au son lorsque voilà. Moi j'écoute des pièces des années 70 avec de la bande magnétique, j'arrive à encore éprouver un plaisir sonore brut, physique, très sensuel. Et le son numérique, je le supporte de moins en moins parce que je le trouve très fatigant.
Peut-être que ça, c'est un truc à dépasser en passant dans des...
Oui, non, de plus en plus, ça fait. Il y a une qualité qui s'accroît, bien entendu.
Mais c'est vrai que la première pièce qu'on a entendue, toutes les arrivées des sons de synthèse, et c'est vraiment de l'or. Il y en a beaucoup et c'est, ça sollicite beaucoup les aigus. Enfin,
oui. Je
pense que c'est ce que je veux dire. T'as pas froid d'ailleurs. Faut voir quand c'est.
Ça va, Roger?
Moi ça va, ça va très bien.
Okay.
De quoi voulez-vous qu'on parle?
Là, on voulait attaquer une partie qui va poser problème pour ceux qui vont écouter les archives. Puisque les extraits sonores seront tronqués pour des raisons de droit.
Ouais, sur même, ils ne seront pas présents sur les archives.
Tout simplement. Donc, voilà.
Ouais, c'est vrai. On n'a pas le choix.
Et justement, c'était la question des droits d'auteur. Et je veux savoir à qui appartenaient les musiques que tu composes.
Oui.
Alors là, mais c'est une question à plein de sens concrètement. À qui tu aimerais bien qu'elles appartiennent et à qui qu'est-ce qui te...
Alors c'est vrai que moi, puisque vous m'avez prévenu qu'on allait parler des problèmes des droits, on va préciser de quel droit il s'agit, des droits de diffusion, des droits d'auteur, etc. Et c'est vrai que je me suis dit, oh là là, mais j'ai rien à dire là-dessus sur les problèmes de droit. Peut-être parce que j'ai pas eu à me confronter à ces problèmes-là, etc. Et pourtant, si. Alors, moi j'ai un statut de consommateur, d'abord, comme tout le monde, de compositeur avec mes propres droits d'auteur, dont on va parler aussi vite que ce qu'il pèse. Ma dernière distribution de droits d'auteur, on m'a dit, bah, il n'y a pas assez, donc ça ne vaut pas la peine de faire un chèque, on le mettra avec la prochaine distribution. Mais je vais prendre cette question au sérieux là. Hein. Et puis comme enseignant aussi, ou comme diffuseur, puisque je suis amené de plus en plus à prévoir des séances de conférences, de communication ou de programmation, si vous voulez. Hein. Donc je fais un petit tour, mais au bout de tout ça, comment dire, j'ai absolument aucune solution à donner à ce problème-là, je n'ai que des questions. En particulier sur toutes les contradictions de ce système-là et tous les paradoxes et les ambiguïtés qu'il peut y avoir. Ma première réaction, c'est de dire, c'est le sens de l'histoire, c'est d'être révolté en me disant, mais après tout, le savoir appartient à tout le monde. Et je ne vois pas pourquoi il faudrait payer ou priver ou punir des gens d'un certain savoir pour des problèmes de droit. Et ça fait vite des questions nouvelles. En effet, à partir de quel moment... Tout à l'heure, on a parlé du langage. Hein, à partir de quel moment je fais œuvre qui m'appartient dans la mesure où moi, j'ai été appris par des savoirs qu'on m'a transmis gratuitement. La première question, je me dis, ben merde, moi, fils d'immigré, je supporte pas que le savoir ne soit pas gratuit pour tout le monde. Et après, je me dis, pourtant, il y a des gens qui ont travaillé. Et là, récemment, il y a une jeune femme qui avait fait un produit intéressant, puis elle cherchait à le produire d'intérêt général. Et l'éditeur lui a dit, mais écoutez, là, avec la baisse de... le manque de vente des CD, etc., on n'a pas l'argent pour vous le faire. Donc ce ne sera pas rentable, on ne vous le fait pas. Donc il faut bien, quelque part aussi, que des droits servent à faire des produits qui soient utilisables pour tout le monde. Mais ça fait vite beaucoup de questions très compliquées. Moi, je me dis, mais s'il y a un droit, c'est certainement pas un droit moral sur les savoirs, parce que l'exemple le plus stupide que j'ai jamais vu, c'est Madame Soleil. Les commerciaux ont tendance à s'approprier les mots. Moi, je trouve ça scandaleux que, sous raison commerciale, on met une étiquette, on découvre un terme et on se l'approprie, et qui veut l'utiliser, on paye, quoi. Alors qu'il y a des siècles et des siècles d'histoire. Hein. Alors, Madame Soleil, qui avait fait commerce donc, en astrologie, un jour a fait un procès à une dame qui était aussi astrologue, mais qui s'appelait vraiment Madame Soleil. C'était son nom de famille. Et donc je trouve ça scandaleux d'aller priver quelqu'un à qui appartiennent les mots. Moi, on m'a instruit. Si comme j'ai dit tout à l'heure, j'avais pas des siècles et des siècles d'histoire derrière moi, on m'aurait jamais rien appris. Et j'utilise ça qui appartient à tout le monde et qui s'est transmis gratuitement pour faire autre chose. Donc si on paye des droits, sur quoi on les paye? Sur le droit moral, sur les... Bon, alors supposons qu'il y a un peu de travail et qu'on ait contribué un petit peu à l'histoire. Moi, je veux bien qu'on paye ça à quelqu'un, mais je trouve que c'est un système inégal. Moi, pour faire de la musique, je mets un an, et simplement parce qu'elle n'est pas diffusée sur les médias, ce qui est relativement arbitraire, il y en a qui font commerce de leurs droits. Quoi. Entre le fait d'être récompensé d'un travail, si on met de côté le fait que les savoirs ont été transmis et qu'ils ne vous appartiennent pas, et qu'on n'a pas le droit de se les approprier, en effet, je trouve scandaleux qu'on s'approprie les mots. Pourquoi est-ce qu'on doit payer quelqu'un parce qu'il utilise des mots alors qu'il y a des siècles et des siècles d'histoire avant qui l'ont fait? Alors qu'est-ce qu'on paye? Le travail qui a été fait? Mais c'est vachement inégal. Moi, je bosse un an pour faire 10 minutes et je touche 10 euros. Et d'autres font commerce de leurs droits. Je veux dire, c'est tout à fait une autre attitude. Le showbiz en particulier, enfin, j'ai rien contre, mais dans ce cas-là, ça veut dire qu'on fait commerce d'un droit, d'un travail pour une pièce de 2-3 minutes qui est diffusée arbitrairement parce que les médias diffusent ça comme ça, quoi. Alors, ça, c'est des questions en plus, tout ça, mais pas de réponse pour moi de ce côté-là. Hein. Bon, puis après, je vais plus loin, enfin... Moi, quand je travaille avec la bande magnétique ou les supports... Je crée avec ça et je paye des droits de copie pour les gens qui piratent ou qui copient. C'est extraordinaire comme le sens, l'histoire a changé de sens. J'ai vécu l'époque où les magnétophones, etc., étaient destinés à faire des enregistrements personnels, à faire de la création, bien avant que les FNAC n'existent et que la grande consommation des produits soit là. Et maintenant, quand moi je prends, pour la signification originale qu'avait une bande magnétique de s'exprimer, de créer quelque chose, je paye comme si j'étais un pirate potentiel. C'est-à-dire, je paye une taxe sur mes instruments de travail, qui est un droit. Alors qu'au départ, ben voilà, l'histoire a fait usage. Donc maintenant, on trouve plus de magnétophones avec des micros pour enregistrer. On trouve que des trucs pour faire des copies. On trouve plus que des appareils de reproduction. En quelques années, le marché et le commerce a pris tous les droits. Et donc moi, quand je crée, je suis pénalisé sur le support parce que je dois payer une taxe sur la musique que je fais.
Et après, autre détail, donc là, en présence de toi-même, normalement, tu devrais avoir les droits, dans une logique de diffusion, et même d'autoriser.
Mais ils ne me reviennent pas parce que les sociétés utilisent les droits pour d'autres choses à caractère privatif, puisque c'est la SACEM ou des choses comme ça, ce sont des sociétés privées. Hein. Donc elle a le droit, elle, d'utiliser l'argent qu'elle gagne sur les auteurs pour faire d'autres choses, y compris à encourager les jeunes aussi. Hein, voilà. Donc ça, c'est une question de plus. Ensuite, il y en a beaucoup d'autres là. Je perds un peu le fil, mais je vais retrouver certainement.
Tu viens de parler d'une histoire de licence globale pour des lieux.
Alors, moi, je trouvais bien que si droit il y a, il soit pris en charge publiquement. C'est-à-dire que par exemple, j'utilise Internet et j'ai jamais acheté autant de CD que depuis que je peux consulter, soit sur Internet, soit dans des lieux publics. C'est cette idée-là que les droits soient pris en charge publiquement pour tout le monde m'intéresse beaucoup. Moi, je travaille beaucoup avec la médiathèque, etc. L'idée d'avoir la possibilité de consulter en ligne actuellement beaucoup de documents, il m'arrive de les copier non pas pour les pomper, mais simplement pour changer la consultation de place. Je travaille dans une salle à l'école de musique où on souffle pas d'Internet, comme dans une clarinette, donc on n'a pas droit à la ligne. Dans une école de musique, c'est pas de ça chez nous. Hein. Comme je l'ai à la maison, il faut que je copie sur des CD pour transporter le droit de consulter gratuit d'un lieu à un autre. Mais je ne me considère pas pour un pirate pour autant. C'est-à-dire que si je pouvais être en ligne dans le lieu où je travaille, je ne copierais pas le Schaeffer qu'on a écouté tout à l'heure. Et alors là, on se brancherait, puis on écouterait en direct, puisqu'il est en ligne permanente. Hein. Voilà. Mais donc, ça pose la question de beaucoup. Hein. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on met collectivement à disposition des besoins publics ? Le tout venant des gros nanars, des gros machins comme ça. Et lorsqu'on veut faire des recherches un peu historiques pour des publics spécialisés, on ne dispose pas collectivement de ces machins-là. Donc l'an dernier, moi j'ai travaillé à l'école des Beaux-Arts en faisant des trucs sur Schaeffer. Bien évidemment, ces documents, on ne les trouve pas dans des lieux publics. Hein. Il faut aller les chercher à l'origine, ça relève du chercheur quasiment, d'aller chercher des documents, de les sortir en douce ou des choses comme ça. Hein. Et donc du même coup, c'est... Ok, on critique ceux qui possèdent les droits, les ayants droit, ce qui me paraît arbitraire. Quoi. Pourquoi quelqu'un qui est auteur fait quelque chose et que les générations d'après touchent des droits sur ce qu'il a fait alors qu'ils n'ont pas bossé, ces gens-là ? En fonction de quel droit ?
Et ça fait des rentiers qui deviennent artistes ou pas.
Oui. Non, je rigole. Ou qui interdisent la circulation libre des savoirs. C'est-à-dire que parfois, on arrive à boucler des éléments qui sont vachement intéressants, alors que les jeunes générations ont besoin, véritablement, pour leur culture ou pour apprendre, à des documents qui sont strictement verrouillés pour des problèmes de fric, complètement. Mais j'arrête de critiquer les personnes qui touchent de l'argent, je me mets de l'autre côté. Enfin, qui a culture à recevoir tout ? Autre question, c'est bien beau Internet, mais est-ce que j'ai besoin de m'approprier tout le temps, quoi ? Qu'est-ce que j'en fais ? En termes de temps pour l'exploiter, de spécialisation pour le faire, de temps pour en faire quelque chose et pour le communiquer à d'autres. C'est ça aussi, c'est-à-dire que vous êtes en train de faire une radio là en ligne, à qui elle est destinée ? Qui l'écoute et qui en fait quoi ? Hormis les problèmes de droit, qui là sont libres puisque je parle librement.
Bah, après justement, il y a une notion de support et de format. Et le support qu'on choisit, le format qu'on lui donne, a vocation directe de pouvoir être employé par tout le monde, et donc être écoutable par tout le monde. Donc à ce moment-là, tu nous dis qui écoute, qui a la potentialité d'être intéressé par ce sujet, et n'est pas obligé d'avoir certaines clés d'accès, à part l'accès Internet, par exemple. Donc il y a une certaine restriction. Mais on a enlevé la clé de l'accès à Internet en la faisant sur place. Quand tu commences à faire un morceau que tu dis je le mets sous la SACEM ou je le mets sous un autre truc, tu sais aussi qu'il y a certaines clés d'accès à cette œuvre qui ne seront plus de ta propriété,
Oui.
mais tu donnes les clés à quelqu'un d'autre.
Oui.
Donc là, tu nous demandes quel public?
Oui.
Eh ben, un public qui a ou la possibilité de se déplacer à Bourges et à venir dans le lieu, ou quelqu'un qui a la possibilité d'aller sur Internet et de télécharger le
Oui.
fichier.
Alors, je parlais pas de dispositif physique, je parle du contenu. Ça touche qui et pour quelles applications? Est-ce qu'il y en a? Et est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce qu'il en fait profit, etc. Puisque là, je parle plus des machines, je parle du sens de ce qui est véhiculé, hein, si on se
Ben,
pose.
le sens, non mais je pense que les deux vont ensemble aussi, justement. Le sens, c'est quoi? Ça a été la possibilité justement d'ouvrir. C'est comme ta musique. Tu la communiques, tu sais que c'est un public. Tu peux pas cibler exactement le public que tu vas avoir en face.
Oui.
Par contre, tu essaies de faire en sorte qu'il arrive jusqu'au public. C'est pour ça que j'ai parlé de moyens techniques. Et d'ailleurs, un des publics essaye de t'appeler peut-être.
Oui.
J'aurais dû mettre le silence.
On a du bruit. Voilà un exemple de bruit.
Mettre le silence.
Bruine à moitié maîtrisée.
Et pourtant, oui. Voilà, donc j'aime bien cette notion de consulter librement. Et ça, Internet est fabuleux pour ça, parce qu'on trouve des documents extraordinaires qu'on peut faire partager en ligne chaque fois en direct, sans forcément se poser des problèmes de droit, outre ce qui y sont. Et ça apporte beaucoup. L'idée de prendre en charge les droits collectivement. Et du coup, grâce à vous, je me suis dit, mais pourquoi la ville de Bourges, avec des gens comme la Maison de la Culture, la médiathèque, l'école de musique, Bande d'Images, Emmetrop, l'école d'art, ne négocie pas des droits collectivement pour l'ensemble des besoins de la population? Quelle belle idée! C'est-à-dire, au lieu de payer chaque fois et de tout recommencer, pourquoi ne négocier? Bon. Et j'ai appris, grâce à vous, que. Merde. J'ai appris, grâce à vous,
Une information de
on vient de me
dernière
dire que
minute.
j'ai des droits d'auteur extraordinaires qui tombent. Et j'ai appris que les droits sont liés au lieu. C'est-à-dire là, à la médiathèque, je me suis intéressé à McLaren l'autre jour. Alors c'est fabuleux parce que cette idée-là que n'en parlons plus des droits, mais que pour que la culture se transmette et que ça intéresse, outre les moyens très privés et très personnels dont on ne fait pas grand-chose, il faut bien qu'il y ait des lieux publics actifs avec des projets forts, pour que tous ces contenus personnels prennent du sens. C'est-à-dire qu'il y a un accompagnement. Moi, je me pose la question, au bout de 35 ans d'enseignement, de mettre en ligne des documents, parce que l'époque a changé, que je ne peux plus enseigner de la même façon, et que finalement, mettre en ligne des documents de... Ah, merde. De nature-culture, serait intéressant pour beaucoup. Serait intéressant pour beaucoup. Et bon, outre le fait de le structurer, c'est-à-dire que pour moi, c'est même plus les problèmes des droits, puisque je peux renvoyer en ligne à tout le monde, hein. C'est que ça n'apparaisse pas comme une masse immense d'informations dont plus personne ne sait quoi faire, parce qu'elle n'est pas structurée. C'est-à-dire que si moi je la fais par rapport à un cours ou par rapport à une évolution, il faut bien l'accompagner de quelque chose qui permette à comprendre les contenus, à être libre de l'utiliser. Parce qu'à envoyer de lien en lien, etc., on peut passer des vies entières où en fin de séance, on ne sait même plus ce qu'on avait commencé à chercher en début de séance. Ça vous arrive probablement comme moi. Hein.
Bien sûr.
Donc ça, la question des droits pose aussi pour moi les questions du sens de ce qu'on fait, de la façon de l'exploiter, de la quantité d'informations qu'il y a là. Alors j'ai pas amené Schaeffer, quoi, qui dit, mais... Il y a le problème de la mémoire, il faut conserver tout ça, il faut faire des archives, il faut les classer, etc. Mais il dit, mais avec la somme d'informations qu'il y a, ça prendrait plus de temps à les classer que tout ce qui arrive là. Et la question se pose, il prend un air narquois et dit, et celui qui tourne alors, il n'a pas de responsabilité, c'est celui qui génère les documents, lui. C'est peut-être à lui, à l'origine, à se poser des questions, de savoir ce qu'on fait de son contenu, quoi. Est-ce que tout le monde fait tout et n'importe quoi et que ça transite partout, etc. et on se retrouve avec une forme une somme d'informations dont on ne sait plus quoi faire, hein, individuellement, alors qu'il faut probablement des lieux un peu structurés ou un peu communicants où cette information prend de la valeur et où on peut l'exploiter de proche en proche. Bah, donc j'ai beaucoup aimé la médiathèque et de proche en proche. Voilà encore une autre question. Moi, que je vis gravement en dehors des problèmes de fric et d'interdit qu'il peut y avoir, puisque j'ai commencé à faire quelques séances pour les Beaux-Arts et je vais en faire quelques-unes là pour Bande d'Images. C'est que sitôt que je sors de mon rôle d'enseignant et que je veux diffuser publiquement des choses, là, il y a des droits très chers qui tombent, qui peuvent interdire. Par exemple, la semaine dernière, à la médiathèque, la location de 2000 euros pour un seul film d'animation, qui est passé deux fois, je ne devrais pas le dire publiquement et encore moins en ligne, qui apparaissait comme très exceptionnel, bien entendu. Hein. Mais 12 000 francs, puisque je parle encore en francs, pour deux projections, c'est scandaleusement cher, même si c'est une exception. Donc il y a peut-être... Mais bon, moi ce qui me gêne là-dedans, fondamentalement, ayant vécu après-guerre, hein, c'est cette galaxie de Gutenberg, comme dirait Schaeffer, puisqu'il en a parlé, il a fait des bouquins là-dessus. Et moi, j'ai vécu très fort cette articulation de génération où on était dans l'écrit, la représentation écrite que je continue d'aimer. J'aime bien les supports qu'on balade d'un côté. Et je trouve qu'évidemment, il y a beaucoup plus de liberté d'accès à l'école, dans les romans, dans les textes et dans les bouquins, avec un support encombrant, qu'on prend, etc., qu'on amène où on veut, et où la liberté du sens me paraît beaucoup plus grande. Tandis que je vois aussi tout cet apport d'après-guerre de la pensée, de la fin du XXe siècle, je trouve que c'est un scandale et que c'est un drame, quoi. On a une mémoire audiovisuelle fabuleuse avec des documents extraordinaires, en particulier pour enseigner, qu'on peut montrer avec de tous les progrès de la philosophie, de la biologie, de la musique, des arts, etc., etc. Tout ça fait partie de notre mémoire. Et la lourdeur d'exploitation, elle, on l'a vu, je l'ai expliqué tout à l'heure, se heurte à une structure qui est fondée sur la représentation et sur l'écrit, exclusivement, et se casse la gueule, au point que la pensée de la fin du XXe siècle, on arrive au XXIe, est complètement mise de côté pour des problèmes de circulation d'idées, mais surtout de structuration. Qui a fait le bilan de la pensée? On l'a vu tout à l'heure, en pédagogie musicale, en art, etc., à part les spécialistes, rien, très peu de choses sont passées dans les faits et sont entrées dans une notion de progrès. Faut-il faire un constat d'échec ou faut-il penser que précisément cette nouvelle façon de communiquer se heurte à des problèmes de droit au point qu'on se heurte à l'interdit? J'en sais rien. En tout cas, je me pose la question, au terme de moi, j'approche de l'âge vénérable où je vais arrêter d'exercer professionnellement. Je me dis, merde, quand même, en particulier dans les... J'oppose souvent le fonctionnement du conservatoire à celui de la médiathèque, où dans des lieux d'enseignement, on ouvre la porte, où on a le diplôme. La civilisation de l'écrit, pour moi, c'est ça. C'est-à-dire, soit on a le niveau, on entre, et on a le droit, et puis on sort, et etc. Soit, véritablement, il y a des documents avec du sens et des contenus, pourvu que les personnes... est une structure d'accueil intellectuel minimum et d'accès au support qui permet de se faire avancer. C'est une société de liberté, mais qui nécessite des moyens de communication tout à fait différents. Ceux-là ne sont pas mis en place. Ce que j'ai vécu, moi, comme un gros progrès énorme, lorsque j'ai appris la musique concrète à l'ORTF, au service de la recherche, qui était un lieu fabuleux, où, quand je suis arrivé, avait lieu les Shadok, mais des émissions extraordinaires que je passerai peut-être ici. On travaillait à l'équipe, on s'occupait d'un auditeur dit intelligent, on s'occupait du sens de ce qu'on faisait, et où le modèle de fonctionnement était celui que je continue dans des ateliers, très proche des arts plastiques finalement. J'ai des ressources, je les acquiers ou je les génère moi-même, je les transforme, je les structure, je les communique, je les enseigne. Quelqu'un comme Schaeffer, qui était homme de communication, c'est pas étonnant qu'il soit trouvé dans un système comme la radiophonie. Alors là, je parle pas de la radio en termes de contenu, mais comme mode de fonctionnement très moderne, très 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 évolué, très avancé, qui existe ici à la médiathèque, qui existe dans des lieux marginaux comme ici, mais qui sont loin d'être passés dans la vie institutionnelle. Donc il n'y a pas que le problème du droit, il y a le problème de tout ce qui va avec, moi, que je me pose, et pour moi, il y a un gros raté. C'est-à-dire qu'il y a toute la pensée qui est liée à ces supports qui est en train d'être rayée complètement.
Plus de vision réellement universelle de la diffusion de ces avancées. Mmh. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus une notion de communautarisme et d'individualité qui est mise en avant, qui empêche en fait une universalité telle la pensée que tu sembles développer, toi, ouais. qui n'est plus compatible avec un monde dont la seule valeur est une valeur d'argent personnel, ou en tout cas captée par un individu, qui soit organisation ou personne. On n'est plus du tout dans une démarche collective maintenant. Je pense que ce constat d'échec que tu fais, il est éminemment lié à une nouvelle structure qui redécompose la société sous forme d'élite, finalement d'une manière très, très proche de ce qu'on a vu à l'époque pré-Renaissance, peut-être même Renaissance, où il y avait les élites lettrées, et puis il y avait les autres. Y avait, donc, je pense qu'on peut faire ce constat d'échec.
Je sais pas, enfin, moi je le vis comme un constat d'échec parce que j'ai commencé à travailler sous Malraux, donc ici la maison de la culture, etc., où la notion de culture même faisait partie des choses normales et évidentes. Et puis j'ai vécu l'époque où il a fallu, où j'avais plus d'interlocuteurs, il a fallu justifier nous-mêmes de notre présence et faire l'effort de la communiquer. Et le fait que je parle, je me suis jamais posé ces questions-là que depuis quelques années, de tout expliquer. Parce qu'il a fallu rendre compte de notre présence, quoi. Et maintenant, j'en arrive à des points où on me rend coupable de l'existence de mon art. C'est-à-dire, entre autres ici, c'est pas moi qui ai décidé qu'il y ait une classe d'électroacoustique. Je suis supposé y travailler, faire des propositions et assurer son fonctionnement. Mais on me fait comprendre que je suis coupable d'y être. C'est-à-dire, je me sens de plus en plus exclu et rejeté. Au sens global, dans ma fonction d'artiste, au sens très très large, quoi, parce que j'ai l'impression que mes valeurs sont tellement peu partagées que je me sens complètement exclu. Alors que tout est en germe dans ce que j'ai pu vivre depuis la dernière guerre, puisque je suis né juste après là, pour aller vers une société de progrès, un apport et une contribution à... Voilà, je sens une régression que je vis très très difficilement personnellement, alors que j'y avais mis beaucoup d'espoir. Donc voilà, mais c'est pas aussi simple. Hein. Moi,
c'est pas que noir non plus. On peut légitimement, et je pense que c'est pas être cynique ou voir tout en noir que de faire ce constat-là. Mais il y a d'autres initiatives globales de diffusion aussi bien des expériences que des connaissances qui se mettent en place.
Oui.
Et qui représente des petits... Tu parlais du projet Gutenberg. Projet Gutenberg à l'écrit est relayé maintenant par quelque chose de phénoménal qu'on pourrait appeler Wikipédia, par exemple. Une mise en commun d'une somme d'informations absolument fabuleuse. Il y a, au niveau audio, de nouvelles formes qui sont en train de se développer. On a pas mal parlé du placard, ce réseau ce festival ou ce réseau de concerts pour casque, musique créée en live. Quelque part, c'est des bulles qui vont avec leur temps. C'est-à-dire, elles ne reviennent pas en arrière pour capter un acquis, mais elles essayent d'exprimer avec cette liberté, cette fluidité, quelque chose dont on a besoin, c'est vital pour se développer. Mais je pense que justement, c'est peut-être leur existence est peut-être justement une preuve que de l'autre côté, il y a une assez forte oppression. D'une structure qui essaye de justifier la productivité de chaque chose qui existe en son sein. Et on arrive peut-être à une limite du modèle purement productif.
Mais c'est vrai que toutes ces énergies-là existent. Moi, je connais un tas de gens que je trouve très bien. C'est très difficile aujourd'hui de faire des projets forts et de fédérer des énergies, en tout cas. Ça se fait par petites communautés comme ça, qui ne se recoupent pas forcément. Je ne sais pas, pour le côté positif, ça peut être la conclusion, le mot de la fin, et qui explique, qui repart du début, du bruit au son, et qui en arrive avec ses problèmes de droit, parce que j'ai fait un petit rapport quand même. C'est vrai que dans cette région et autour de Bourges, j'ai pu faire le constat qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au son, en particulier. Qui pratiquent dans des communautés différentes, qui s'appellent les métropes, qui s'appellent Bande d'image, qui s'appellent l'École nationale supérieure d'art, qui s'appelle la classe d'électroacoustique là, et beaucoup d'autres, qui ont des pratiques et des activités qui ne se recoupent pas parce que les esthétiques sont trop différentes. Et le simple fait que j'ai pu travailler sur ces notions de culture ensemble, puisqu'on a travaillé ensemble avant, m'a fait apparaître, moi, que ce qui apparaissait gros comme un œuf, c'est qu'à l'origine, ce qui nous est commun, c'est le son. Au sens où on l'a défini tout à l'heure, hein, une culture du son. Et tout ce que ça veut dire de très fort et d'innombrables activités. Et que si communauté il y a dans les activités que je peux proposer actuellement, puisque je suis là, c'est que je pense qu'il y a des publics communs chez Métrope, chez Bande d'Images, à l'école d'art, avec des ressources qui sont des élèves ou des anciens élèves qui m'ont invité ce soir, des assistants qui se trouvent là-bas, des gens qui travaillent en milieu hospitalier, à la médiathèque, etc. Et qu'au fond, si on arrive à se rencontrer en mettant en commun nos ressources de manière complémentaire, cette culture du sonore, comme non pas comme une culture achevée, mais comme une naissance, comme une origine, comme un potentiel d'énergie, alors du côté de la formation, de la culture et autres, on a beaucoup de choses à faire ensemble. Le fait que je sois présent là, ça n'est une des manifestations, mais ce qui m'a permis d'accepter de venir ici du bruit au son, c'est peut-être déjà de faire le constat que le son, du bruit au son, il y a déjà quelque chose qui relève d'une culture, hein, au beau sens du terme, et que la porte est ouverte pour des activités qu'on peut faire ensemble.
D'ailleurs, il fait très froid, mais ça n'empêche pas de...
C'est pour ça que tu as accroché sur les oreilles.
Oui, ça chauffe les oreilles.
Et que la parole est libre.
Oui. S'il y a des questions, il y a possibilité, parce qu'il a failli y avoir une intervention en donné.
Ah, j'ai pas vu, pardonnez-moi.
Hein? Non, on parlait d'une radio ce matin en fait avec Stéphane où on avait accès à plein de sons, il fallait télécharger le logiciel et à partir de là c'était gratuit, mais en fait pour eux c'était une manière de après se faire monnayer donc, par les entreprises pour cibler ce qui était écouté actuellement et après ça devenait un business quoi. Là, c'était par rapport à la radio tout à l'heure.
Donc tu élèves à l'école des
arts. Ouais.
Bon, mais avec qui on travaille aussi, parce que Stéphane est ancien élève de la classe, il est assistant de la classe lui-même, et puis il travaille là. Teddy aussi a fait là, donc il y a plein de ressources. Je sais pas de quel logiciel tu parles, il y a Audacity qui est un logiciel
C'était pour une radio en particulier, c'était téléchargé gratuitement pour avoir accès à cette radio. Et
enfin, télécharger, c'est un terme un peu abusif. On peut télé-écouter, souvent. Mais télécharger, c'est pas... Parfois, oui. Oui. Pas toujours.
Je vois de quoi tu parles.
Ouais, t'as les différents types de gens, les différents types d'artistes.
Alors, moi, je sais pas comment on peut faire, puisque j'essaye moi aussi de mettre en ligne des ressources qui peuvent intéresser tout le monde. Comment dire, j'ai travaillé non seulement avec des tout petits, mais j'ai travaillé avec des gens, des jeunes gens, des universitaires, etc. Et j'ai pris un peu le contre-pied de certaines personnes qui étaient inquiets en disant, mais si on donne des moyens à tout le monde, on va devenir inutile. Ça s'est posé pour l'ordinateur, hein, comme si tout se passait dans les moyens. Certains profs ont dit, mais mon Dieu, mais s'il y a des logiciels de quoi produire individuellement à la maison, mais alors à quoi on va servir, nous, avec nos machines? Enfin, un petit peu comme s'ils sortaient d'une époque dont ils ne s'étaient pas rendu compte, où les machines étaient un pouvoir. Ils agissaient sur tout le monde.
C'est le problème du chômage.
Donc j'ai vécu cette époque-là où on travaillait avec des magnétophones, et un magnétophone coûtait 4 fois le prix d'un ordinateur d'aujourd'hui, donc il était hors de question de faire un studio. Et il fallait se mettre collectivement à travailler absolument pour arriver à produire, sinon on ne pouvait pas. Hein. Magnétophone, même amateur, en Revox, comme on disait à l'époque. Voilà. Alors... je peux les faire transiter par Stéphane. Moi, je me suis beaucoup intéressé au site où on peut écouter beaucoup de choses du côté des non seulement des logiciels, mais plutôt de la création. Il y a, je pourrais le mettre en ligne ou le communiquer ici. Au moins 3 sites. Je peux les citer peut-être ici en
droit.
Bon, il y a Faunur Janova qui habite en Arles et qui développe beaucoup la création radiophonique et qui a édité même en CD des choses que moi j'aimerais passer, comme l'émission d'Orson Welles, La guerre des mondes, qui a créé une panique, etc. Des gens de radio comme Yann Barantoen, des gens comme Truta, des gens comme Farabé ou Mermet, qui sont issus de France Culture ou d'émissions. Sur France Inter même, il y avait à l'époque L'Oreille en coin avec un week-end entier où les gens aimaient le son, où il y avait la stéréophonie, où il y avait de la création radiophonique, même très populaire. Il y a un autre lieu qui est en Belgique.
Attends, avant, tu peux juste le redire, parce que je vois qu'il y a les stylos qui ont été sortis, mais pas
Foulianja. Nova. Donc, avec un moteur de recherche, tu tombes directement
sur... PH, c'est ça.
PH. PHO. Nurgia.
N-U-R-G-I-A.
Et plus loin, Nova. Donc on trouve là de l'édition, y compris des émissions très très anciennes, et beaucoup de documents historiques sur la radiophonie, un concours biennal, pardon. Voilà. Il y a un autre lieu qu'a inventé Luc Ferrari, qui s'est beaucoup intéressé à une forme particulière, le Hörspiel, qui est très développé, qui porte un nom allemand puisqu'il a été développé en Allemagne, et qui est à mi-chemin entre la dramatique radiophonique et la musique. Et là, il y a un concours aussi qui s'appelle maintenant le concours Luc Ferrari, avec des éditions de CD qui sont plutôt faites par des compositeurs. Donc c'est des émissions un peu moins narratives sur des thèmes comme l'élément, la ville, etc., qu'on peut écouter. Qu'est-ce que je dis là ? Il y a l'atelier de création sonore et radiophonique de Belgique. Là, c'est création sonore ACSRB. Avec des émissions fabuleuses comme Silence Radio, etc. Moi, j'ai fait écouter récemment à mes étudiants pour le son, une aveugle qui fait visiter Bruxelles rien qu'avec le son. Et plein d'émissions d'invention, y compris les plus loufoques, les plus rigolotes, les plus injurieuses, etc. Voilà à quoi je pense. Et sinon, comme site extraordinaire que vous pouvez consulter, Je suis en train de prendre rendez-vous avec son auteur. Il y a quelque chose qui s'appelle Sonoris Causa, Sonoris comme le latin, et Causa, C-A-U-S-A, où on peut écouter beaucoup de choses. On voit que c'est un amoureux du son. C'est probablement un poète aussi, puisqu'il joue avec les sonorités des mots. Et il y a une liste de liens très très sérieux qui vous renvoie pratiquement à tout ce que je vous ai dit là, et qui vous permettent d'écouter énormément de choses, d'avoir des références techniques, des références de création, etc. Rien qu'à, si j'en avais qu'un, c'est un blog à vous proposer. Il n'a aucun intérêt graphique parce qu'il est moche comme tout. Mais la qualité des liens au niveau national et international, de lien en lien, vous pouvez vous intéresser et trouver de la création. Et c'est très très clair. Enfin, on voit que c'est fait par quelqu'un de talent, qui aime le son et la création.
Et toutes les...
Et puis beaucoup d'autres, parce que dès qu'on se met à faire un site... C'est-à-dire la question, excuse-moi, non, que je pose. Si moi je fais un blog avec les 2500 liens que je connais, on en revient au truc, à la situation précédente, c'est-à-dire j'aurais pollué Internet davantage et puis ça n'avancera pas grand-chose.
Mais non, c'est un média.
La question est de la communiquer, et de la communiquer convenablement, l'information, de la structurer, de prendre des risques, etc.
Mais regarde, c'est ce que tu disais, quoi, c'est juste pour reprendre, c'est un faux débat, mais. C'est juste ce que tu disais, t'es allé voir le site de Sonoris, Causa, t'es allé voir qui est derrière, et ce qui est derrière, il est bien passé par un site pour qu'à un moment on le voie un petit peu, et ce qui est derrière, tu vas l'inviter. Donc quelque part, c'est pas aussi de la saturation d'informations, c'est des points d'émergence. Internet est un média, donc sert à diffuser de l'information. Après, si on reste coincé à ce juste information internet, on est réduit à ce média là et puis ou alors on choisit justement de prendre ce qui est possible avec ce média plus les autres médias qui nous sont présents.
Et moi je redis quelque chose, je vais jouer au Schaeffer moi-même puisqu'il était mon prof, mais en plus j'ai pas le culte schaefferien, mais c'est une époque quand même, hein. des sons, les êtres humains ont fait des langages, des langues en particulier, hein. Je rabâche toujours, excusez-moi ceux qui me connaissent, je rabâche toujours la même chose. Le fait qu'avec des sons on ait pu faire un verbe, un sujet, un complément, c'est-à-dire qui, fait, quoi, avec qui, pour qui, avec quel moyen, comment, où, etc., c'est avec des sons se poser la question d'une unité. Et dès qu'on se pose le problème du droit, c'est-à-dire avec quels moyens, moi je renvoie systématiquement pour qui, qu'est-ce qu'on met dedans,
bien sûr.
Qui a fait ça. C'est-à-dire que c'est indissociable, c'est-à-dire que ce qui va avec le son, et une succession de sons qui s'expriment non pas de manière polyphonique en musique, mais par le langage, c'est indissociable d'une phrase entière, complète, qui pose l'ensemble des éléments pour faire une unité. Je redis bien, qui l'a fait ce machin-là? Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce qu'on est responsable des merdes qu'on fait, ou est-ce que ça a de l'intérêt? Ouais, moi qui me garantis que la musique que j'ai fait écouter fait pas chier le monde entier, et que j'aurais passé ma vie à me poser des tas de questions qui sont valables pour moi-même, mais qui sont incommunicables. J'ai essayé, je me suis inscrit un peu dans l'histoire des hommes en espérant que je me trompais pas trop. Et puis j'ai vérifié sur d'autres que ça marchait un petit peu, mais je laisse pas des machins comme ça, sans hiérarchie minimale de valeur avec le reste, quoi. La personne qui fait est vachement responsable de ce qu'il y a. Enfin, sur le site internet, je suis pas sûr que ce soit aussi clair. Voilà, donc l'ensemble, enfin, qui le fait.
Tu as une possibilité. Pour le site internet, tu peux avoir une possibilité de disparition de l'individu, donc de disparition de la responsabilité. Mais c'est pas pour tous les sites, on peut pas dire ça du tout.
Non, non, en effet.
Toute production qui prouve que certaines pièces que tu as faites, tu les assumes ou que tu les aies toutes signées, ne serait-ce que ça, ou qui finissent dans une compilation qu'on ne connaît pas, qui se fait englober justement, qui appartiennent au droit d'une maison d'édition, où toi tu disparais complètement et que tu peux dire je l'accepte plus, mais oui, ça ne t'appartient plus, c'est quand même diffusé.
De toute façon, déjà là, tu n'as même pas les droits pour diffuser.
On a le droit de s'opposer. Hein. Moi, j'ai passé à l'école des Beaux-Arts l'an dernier la symphonie pour un homme seul avec Béjart qui s'oppose dorénavant à.
C'est le droit moral. Hein.
Oui.
C'est ça, c'est le droit moral, le droit auteur, le droit moral.
Oui. Et y compris le droit, moi, la pièce que j'ai faite là, je l'ai faite chez moi, que vous venez d'écouter la dernière, le tout petit machin. Le seul fait que j'ai signé un contrat sur un CD fait que je suis plus. Je conserve le droit moral, évidemment, et les droits d'auteur, mais je n'ai pas le droit de le mettre en ligne là, ce soir. J'ai pas l'autorisation. Enfin, qui s'en rendra compte si on le met.
Oui, il y a toujours la stratégie de la guérilla ensuite. C'est-à-dire que.
Voilà, de la frustration de l'auditeur. Cher auditeur, nous allons passer un dernier morceau que vous n'avez pas le droit d'entendre. Donc nous allons couper le stream. Par contre, ceux qui sont présents pourront l'écouter. Merci, au revoir. Get you not farce.
Bon, donc moi je voulais saluer, puisque vous avez la gentillesse de m'inviter, cette initiative que vous prenez, Signal sur Bruit, de diffuser des contenus en ligne, en étant très attentif à ce qui s'y dit, en ayant choisi une thématique, enfin c'est pas rien. Je sais pas où ça peut conduire après, et la façon dont je peux poser des questions, vous réglez ces problèmes de droit, alors au sens très économique du terme, hein, en dehors de toutes les questions que j'ai posées pêle-mêle comme ça, auxquelles je sais pas répondre moi-même, vous, comment vous réglez ça, et quel avenir vous voyez dans une façon de communiquer en ligne, qui est dans le prolongement de la radio finalement?
Tu parles de quel droit des émissions
de l'accès à des documents.
Par exemple, il y a déjà, vu qu'on est un média, donc on va chercher une source sonore qu'on va diffuser, qu'on va absorber et qu'on va rediffuser. Si tu veux. Donc déjà, peut-être qu'il y a les droits de ce qu'on va prendre. Par exemple, il y a eu un DJ qui a passé du rock'n'roll, donc il passe de la musique d'ayant droit. Donc on a payé la SACEM. On est invité par une structure. Donc la structure, si elle nous invite, ça veut dire qu'elle incorpore dans son mode de fonctionnement qu'à un moment elle va payer des artistes pour X raisons. Donc elle a fait des demandes à la DRAC, entre autres. Donc, on va dire qu'il y a une arrivée d'argent qui arrive dans la structure. La structure nous accueille, donc elle est prête à distribuer une certaine somme d'argent pour notre fonctionnement à nous, de notre installation. On veut inviter un DJ qui diffuse du rock'n'roll. On doit payer la SACEM. Ouais, je suis en train de. Ah non, c'est fini. On doit payer la SACEM. La structure paye la SACEM. Donc nous, par exemple, en tant qu'intervenant, en tant que, on va dire, émulateur de ce projet, les droits d'auteur et donc les droits de la SACEM, c'est pas nous directement qui les gérons. Ça va être l'association qui nous accueille. Et l'établissement, la SACEM. Tu vois, donc, nous, on n'a pas dû faire les démarches. Il y a un espèce de truc qui s'opère comme ça. Ça veut dire qu'on n'est plus au titre individuel dans notre appartement. Quoi, tu vois,
c'est en ligne en direct ou c'est enregistré?
Mais par exemple, pour le DJ, c'était en direct. Donc, ils ont pu écouter du rock'n'roll en direct. Par contre, vu qu'on. Par contre, on n'a pas mis en archivage sa musique.
Oui.
Voilà, sa musique n'est pas archivée. Ça veut dire qu'elle a été présente à un moment. Elle a été présente pour des personnes qui étaient sur le lieu. Elle a été présente pour ceux qui ont écouté sur Internet.
Maintenant, on n'aura que des références de musique, c'est-à-dire que moi je l'ai enregistré, et avec lui on va faire un archival, quoi. On va mettre les noms des morceaux, de tous les morceaux qui ont été diffusés, donc il y a plus de 4 heures de morceaux, de 3 minutes et quelques, donc il y a de quoi s'amuser. Mmh. Et là, on va diffuser une liste écrite, autorisée, de morceaux qui ont été proposés, libre à ceux qui voudront aller chercher ces morceaux rock'n'roll, d'aller les chercher par leurs propres moyens. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est juste au niveau de l'information. Après, Terence, tu peux lâcher les nerfs. Ouais. Peut-être aussi reprendre, qu'on voie ce qu'on pense tous les deux. Mais par rapport à l'information, on ne peut pas diffuser, par exemple, la musique sur Internet. On peut la diffuser, on ne peut pas l'enregistrer. D'accord ? Elle n'est pas archivable. On ne va pas archiver le morceau lui-même. On va archiver sa référence.
Et ça pourrait à la limite couper les morceaux qu'on écoute sur un silence. On a ce temps de liberté sur lequel on intervient, sur lequel on peut donner les références et en profiter pour faire un banc d'intervention. Là, c'est un espace de liberté qui nous appartient à posteriori.
Et par exemple, ce qui s'est passé avec toi, on savait pertinemment que ta musique était prise, c'est-à-dire n'est pas sous licence libre. Mmh. On avait le choix. Ou on fait une radio licence libre. On invite que des artistes licence libre. Bon, quelque part, très bien, on sera convaincu entre nous que la licence libre peut être quelque chose de très bien, mais on va pas aussi se confronter aux contraintes de ce qu'est une licence pas libre, quoi, d'un droit d'auteur.
Et la réalité.
Nous, ce qui nous intéressait, c'est ce que je t'ai déjà dit hors micro, mais on peut le dire face au micro aussi, c'est la liberté de ta parole. Parce que ton morceau, pour moi, il a une valeur. C'est-à-dire que j'espère que les gens auront la curiosité d'aller écouter ces morceaux et de t'acheter tes CD. Comme ça, c'est pas... 10 euros,
mais c'est pas moi qui les vends.
Ouais. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais à un moment, c'est qu'on a la possibilité justement d'avoir la personne. Donc aussi cette notion de la radio qui pour nous nous intéresse beaucoup. C'est-à-dire la physicalité des choses. On n'est pas un distributeur de playlists. Internet, ça peut être tu cliques sur Imul ou on peut faire de la pub pour n'importe quel truc de playlist. Tu peux obtenir des morceaux. Qu'ils soient pirates ou pas pirates, on n'en a rien à scotcher. Ils arrivent sur ton truc et puis tu peux dire, bah voilà, tel musicien il a fait telle chose. Nous, si on peut pas envoyer tel morceau en archivage, en archive, eh ben on va avoir la parole de celui qui a fait la musique.
Je pense qu'on a une écologie par rapport à Internet, oui. Si on peut parler comme ça. Pour éviter, tu parlais d'Internet poubelle presque. Je parle en termes écologiques, c'est qu'on fait un flux intermittent, non pas en continu, c'est-à-dire qu'on considère qu'on va pas balancer à tout va et des playlists en continu, et qu'ensuite on a un choix bien précis de ce qu'on diffuse, et c'est pour ça qu'on a donné cette thématique structurante bien floue, bien vague, mais qui est quand même vraiment tisse un lien entre toutes les personnes qui interviennent, qui sont généralement des personnes qu'on a côtoyées et qui participent de notre
propre formation.
Et ces personnes qui nous ont aidé à pousser à questionner ces rapports de limite entre le signal et le bruit, finalement, qui c'est une question de perception et une relation au monde. Enfin, je pense que les personnes qu'on invite ont influent sur notre rapport.
Bien sûr. Et au niveau des droits, encore, c'est si tu te réfères aux droits, à la législation, alors là, par exemple, on peut renvoyer avec Philippe. Qui lui est plus dans le libre, on va dire, au niveau de la perception. Il y a eu un mode de assez intéressant, c'est que tu peux pas te... Par exemple, la législation avec les licences libres font que maintenant, au niveau légal, tu as des lois qui font que ton produit, que ton œuvre, est libre de droit. C'est-à-dire qu'il y a eu une incorporation du législatif... Hein, dans le mode de production, dans l'appréciation du mode de production. Si jamais on se réservait un seul mode, c'est-à-dire que si on disait nous on veut que du libre, on fait une radio libre, vive le libre. Ouais non mais on a oublié là un truc, c'est qu'il y a un autre mode qui existe et c'est dans les confrontations de ces deux modes-là, c'est dans la perception de ces deux modes-là qu'un troisième peut naître, que des intermédiaires peuvent se créer, des liens, et c'est à partir de là que nous justement on s'est dit droit, on en parle. Quoi, au niveau des droits, on en parle. Au niveau de la législation, on en parle. Mais on va pas se restreindre. S'il faut payer la SACEM à un moment, la SACEM a sa logique. on la payera sur certaines choses.
Même si on n'est pas forcément d'accord.
Même si on n'est pas forcément d'accord, mais il y a certaines logiques, on est prêt à les accepter. À la fois, si on peut la biaiser, et c'est pas la biaiser en étant, ouais, on est des pirates, on va passer des choses illégales, écoutez, vous êtes 100%, on n'est pas dans ce romantisme-là. On peut pas le faire, et ben on le fait pas, par contre on propose autre chose. C'est pour ça que tes morceaux ne seront pas enregistrés, il y aura juste la référence, mais on aura ta voix.
Mais on invite les gens à venir et à sympathiser avec nous, devenir des amis très proches et dans le cadre privé.
Et bien sûr, il y a quelque chose de complètement illégal que certains auditeurs sur Internet pourraient faire et d'enregistrer eux-mêmes un logiciel libre, comme tu le disais, comme Audacity, puis remettre à disposition tout l'enregistrement complet, cette fois-ci non édité de leur de l'émission. Et
ou pas.
Ça serait bien évidemment illégal, mais intraçable dans la masse des informations d'Internet.
Ouais, et puis les meilleurs concerts de jazz, c'était des concerts pirates.
Quelque part, il n'y a pas d'apologie à avoir, il y a simplement une malléabilité du média qui permet en même temps d'avoir une poubelle, mais en même temps d'avoir quelque chose qui est formidable au niveau de la création. Il n'y a pas de noir sans blanc, quelque part, si on peut résumer ce que je veux dire.
Qu'en penses-tu?
Oui. Non, non, mais j'aime bien l'idée qu'en effet, toute cette somme d'informations, bien sûr, on peut l'exploiter lorsqu'on est, on est spécialiste. Enfin, moi, je me sers d'Internet seul, de manière très individuelle, pour des travaux personnels. Mais pour ce qui est d'ordre culturel, qui est votre souci, c'est ce qui nous réunit tous ici, l'idée, en effet, d'accompagner des contenus avec des équipes qui travaillent, de structurer un petit peu l'information, de la transmettre, de prendre le temps de le faire, de l'accompagner en tout cas, me paraît être une solution.
C'est un peu le rôle de
qui est disponible, oui, qui est encore disponible pour le, à la fois pour le faire et pour l'entendre, je ne me rends pas compte du tout.
Je crois que c'est notre responsabilité à tous, mais quelque part, si je peux reprendre l'analogie que tu faisais, en disant tu donnais des cartographies, une cartographie qui permettait aux enfants de découvrir qu'un bruit devenait un son.
Un son, ouais.
Quelque part, on a la même responsabilité face à Internet, c'est, ou même face à n'importe quel média, ça peut être la télé, c'est qu'une logorée d'informations peut devenir quelque chose d'exploitable, d'intéressant, en ayant la bonne cartographie, en ayant cette distance et cette compréhension des contrastes dans le son comme dans l'information qu'on peut déceler. Et quelque part, c'est une philosophie de vie qui est, je pense, très proche d'une démarche artistique, mais j'espère que Debord a pas craché dans cette société du spectacle sans que ça ait quelques impacts. On peut faire de notre vie, quelque part, quelque chose qui intègre cette notion, de pouvoir comprendre la multitude de choses qui est sous nos doigts, et de se sentir assez libre et assez distancié pour choisir ce qu'on veut et peut-être soit juste consommer ou peut-être même transcender et créer. Et je crois que ça, c'est pas plus au créateur qu'au public, c'est à tout le monde de se rendre compte qu'on est relativement libre.
Pour revenir à cette idée de consommation, j'en reviens aussi à des termes plus culinaires, c'est qu'ici il s'agit de proposer à une saveur qui est celle du bruit dans la musique, entre autres. C'est pour moi. Voilà.
Tu nous mets un dernier morceau?
J'ai plus grand chose à vous faire.
T'aimerais nous faire écouter une cartouche?
Non, mais le dernier morceau, c'était de vous remercier d'avoir organisé.
Ah, mais alors, de façon électroacoustique, ça veut dire qu'il faut se déplacer dans l'espace. Tu nous fais une spatialisation. Moi, je serais assez curieux de redécouvrir autre chose, si tu permets.
Bien là. On invite, on peut choisir.
Vous avez pas
le Pierre-Henri, c'est un peu zen. Hein. Moi, je veux bien.
Ah, ouais. J'adore ça.
Ouais, on peut passer la Noire à 60 de Pierre-Henri.
Ah, ben ouais.
Merci Pierre-Henri de nous laisser.
Toi qui nous écoute.
Alors, lui, s'il m'attrape.
S'il me chope.
Alors, la Noire à 60 est une pièce très austère, faite avec quelques sons qui se répètent les uns après les autres, comme ça.